Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Politiquement Vôtre, la grande émission politique de Mon Paris FM. Dans cette émission, imaginée par les acteurs sociaux des centres Houdiné et Goscinny, des jeunes politisés ou non font face à des personnalités politiques. Le but, créer de l'échange, mieux comprendre la portée de l'action politique et en quoi elle impacte directement nos vies quotidiennes. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons accueillir Ariane Anemoyanis, candidate Révolution Permanente à la mairie du 13e arrondissement. Comment ça va, Ariane ?
Ça va très bien, merci pour l'invitation.
Avec plaisir. Donc, première radio depuis longtemps, c'est ça ?
Exactement.
Ouais, on va faire en sorte que ça se passe bien. Et avec nous, notre chroniqueuse, notre super chroniqueuse, Assia, comment ça va ?
Ça va très bien, et toi ?
Prête pour l'émission d'aujourd'hui ?
Oui.
Bien remise de celle de mardi, puisqu'on enchaîne en ce moment, c'est la fin de la campagne, on est très sollicité.
Ça va de plus en plus vite.
Et après, on va ralentir, après on quittera un petit peu les élections municipales, les enjeux électoraux, etc., etc. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur Ariane et sur ce qu'elle propose pour le 13e arrondissement. Donc Ariane, déjà on vous connaît peu, hein, vous n'êtes pas une candidate médiatique comme on le dit, on connaît un peu votre parcours, il y a des sources par-ci par-là, mais nous on préfère en parler directement avec vous pour comprendre d'où vous venez et comment vous êtes arrivé là. Alors, la première question, ce sera quels ont été vos premiers contacts avec la politique et qu'est-ce qui vous a donné envie de militer ?
Alors, moi, c'est vrai que j'ai un parcours assez particulier par rapport aux candidats traditionnels, dans le sens où moi, j'ai découvert la politique au lycée, par les mobilisations lycéennes. J'ai fait mes 3 années de lycée sous le mandat de François Hollande, du Parti Socialiste, et j'ai compris en fait assez rapidement que le PS n'était pas l'allié des classes populaires et de la jeunesse, dans le sens où en seconde en fait ils ont expulsé Leonarda et Katchik, qui étaient deux lycéens scolarisés en France. Ils les ont expulsés manu militari avec la police qui est venue dans leur classe, etc. Et donc il y a eu des mobilisations autour de ça. L'année suivante, ils ont tué Rémi Fraisse, qui était un militant écologiste. Ils l'ont tué avec une grenade de désencerclement qui s'est logée dans sa nuque. Il y a eu des mobilisations lycéennes suite à ça contre les violences policières et pour l'écologie. J'ai fait ma terminale sous le sujet de la loi travail, qui est la principale réforme de casse des conditions de travail. Et donc, j'ai baigné en fait dans cet environnement politique et militant où j'ai découvert le fait de faire la politique nous-mêmes. Par le bas, avec des assemblées générales, avec des manifestations, avec des pétitions. J'ai aussi découvert les violences policières, la répression de l'État. Je me suis engagée d'abord comme participante des mobilisations des dernières années. Et ensuite, j'ai décidé de m'engager avec Révolution Permanente à l'issue d'un grand mouvement étudiant contre le tri social et Parcoursup. Donc, j'ai été les campus de droit de Paris 1, donc Cassin, Lourcine, vers les Gobelins. Mais il y avait une occupation du campus de Tolbiac, qui est un campus particulièrement populaire et militant dans le 13e. On s'est battu pendant des semaines et des semaines contre la sélection sociale à l'université. À l'issue de ça, j'ai décidé qu'il fallait que je m'engage en politique parce que je ne pouvais pas attendre qu'il y ait des mobilisations pour porter une voix et qu'il fallait que je le fasse plus au quotidien. Et moi, ça m'a émancipée, ça m'a épanouie. J'ai trouvé un sens à mes études, à ma vie plus en général, en faisant de la politique avec des étudiants et des travailleurs.
Et pourquoi avoir choisi de s'engager à Révolution Permanente ?
Parce que c'était ceux qui étaient les plus conséquents dans les luttes, qui faisaient en sorte que les mobilisations aillent le plus loin, qui faisaient en sorte que quand il y avait des travailleurs, des pères et des mères de famille qui faisaient grève, elles puissent avoir des caisses de grève pour subvenir à leurs besoins et qu'elles puissent lutter sans avoir le coup près financier à la fin du mois, qui étaient les plus déterminés en fait à faire que la voix des gens d'en bas qui font tourner la société qu'on n'écoute jamais soit entendu. J'ai été convaincue d'une stratégie qui mise sur nos propres forces, sur le collectif et sur la détermination. plutôt que par les institutions et les compromissions avec les directions d'université, les grandes entreprises ou le gouvernement. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me convainc et que je porte aussi dans le cadre électoral, quoi.
On sait que beaucoup de personnalités politiques sont des professionnels de la politique, comme on le dit, qu'ils ne font que ça.
Exactement.
Je crois que vous êtes différente. Vous pouvez nous dire ce que vous faites aujourd'hui et comment, en gros, votre expérience du travail s'articule avec les luttes que vous menez?
Oui, exactement. Nous, on n'est pas des politiciens professionnels. Moi, actuellement, je suis en train de finir mes études pour devenir avocate. J'aspire à devenir une avocate au service, en gros, des travailleurs, des personnes étrangères, des personnes dans le besoin, des militants écologistes qui sont réprimés par l'État.
Vous voulez suivre la voie de votre camarade Elsa Marcel, c'est
exactement.
Ça, qui fait un peu la même chose à Saint-Denis, qui est candidate à Saint-Denis, qui est avocate, elle aussi, dans les mêmes sphères que vous évoquez. Très bien.
Exactement. Et donc, je suis en stage de fin d'école en ce moment. Donc, je travaille beaucoup, je travaille en cabinet. Donc, je fais la campagne le soir et le week-end. Et globalement, tous mes colistiers, c'est la même chose. On n'est pas des gens qui avons des congés ou suffisamment d'argent pour être H24 sur la campagne. Mais ça fait aussi notre force, parce que quand on va faire du porte-à-porte le soir et qu'on explique qu'on revient du travail, bah, les gens, ils s'y retrouvent. Et ils préfèrent nous avoir, nous, devant leur porte que des gens qui ne connaissent pas leur réalité. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans la campagne.
Très bien. Assia, je te laisse la parole, vas-y.
Mais donc, étant davantage associée aux mobilisations qu'aux élections, comment vous situez-vous, donc, d'une part entre l'engagement militant et d'autre part avec la responsabilité d'une élue municipale? Et donc, pour vous, qu'est-ce qu'une élection pourrait réellement changer?
C'est une bonne question. Nous, on fait cette élection avec la logique de porter en fait les revendications et les intérêts des classes populaires dans le conseil municipal. Il n'y a pas de dissociation entre mon moi militant et mon moi candidate. Je ne fais qu'une personne avec les mêmes convictions et la même détermination. Si on a décidé de se présenter aux élections municipales, c'est pour mettre un coup d'arrêt en fait à une politique parisienne au service vraiment des grandes entreprises et des ultra-riches et de proposer en fait une réponse à la hauteur des besoins des classes populaires, à la hauteur des problèmes qu'ils posent, en voyant en fait que les solutions institutionnelles et de la gauche réformiste ne sont pas suffisantes et que en fait il y a besoin de radicalité aussi sur le terrain électoral pour répondre jusqu'au bout aux problèmes qui se posent pour les classes populaires. Quand on ne peut pas se loger, que en fait il y a 10% par exemple des étudiants qui ont déjà été sans abri, qu'on est très nombreux à sauter des repas à cause de la précarité, qu'il y a des mineurs isolés qui dorment à la rue, que en fait les familles elles s'entassent dans des logements insalubres, trop petits dans le sud du 13e, on ne peut pas y répondre avec des mesurettes, avec des miettes. On pense que la radicalité qu'on a exprimée dans les luttes de ces dernières années, que ce soit contre la réforme des retraites, contre Parcoursup, avec les Gilets jaunes, elle doit s'exprimer dans le conseil municipal, dans cette campagne, et qu'en dernière instance, c'est ceux qui font tourner la société qui devraient la diriger, et que c'est ça aussi le but de cette campagne, c'est rentrer à la mairie pour être les yeux et les oreilles de la population et rien laisser passer, être intransigeant avec toutes les attaques que la mairie, elle passe depuis des décennies et mettre un coup d'arrêt à tout ça.
Ce qui me frappe quand vous parlez, c'est que vous vous opposez vraiment à la gauche traditionnelle, qu'on peut appeler plus ou moins centriste. Et on sait que c'est quelque chose qui ne venait pas de l'extrême gauche de base, c'est-à-dire que c'est Manuel Valls, le premier, je crois, qui avait parlé de deux gauches irréconciliables en parlant de LFI et des autres, en comparaison avec le Parti Socialiste. Vous, c'est quelque chose que vous revendiquez, le fait qu'il y ait une gauche qui ne vous appartienne pas, que vous luttez contre ces mesures, etc., et que c'est vraiment des philosophies politiques différentes.
Alors, vis-à-vis du Parti Socialiste, clairement, ça n'est pas juste un parti avec lequel on a des désaccords.
Et pardon, je vous coupe, et dans la campagne actuelle, du coup, l'alliance du Parti Socialiste avec le PC, avec les Verts, etc., qui en fait sont sur une même liste et qui vont mener un même projet politique.
Ah oui, non, nous, on s'oppose très très clairement à ces propositions d'alliance électorale avec des formations politiques qui ont trahi les classes populaires, qui les ont réprimées quand elles se sont mobilisées et qui ont pavé la voie à l'extrême droite. Moi, je vous racontais mon parcours de lycéenne sous le mandat de François Hollande. J'étais vraiment profondément marquée par toutes leurs mesures. Et aujourd'hui, je n'accepte pas qu'on dise que la seule solution pour faire face à l'extrême droite, ça soit de s'allier avec le Parti socialiste qui a voté le permis de tuer, qui a permis de tuer Naël il y a quelques années, qui a fait la loi travail, qui a précarisé des millions de personnes, qui a proposé la déchéance de nationalité. Tout ça, ça ne me convient pas. Et en fait, on veut rompre avec les formules habituelles. Moi, je suis née, ça parlait déjà de faire barrage à l'extrême droite. Qu'est-ce que ça a permis de faire quand on voit qu'en fait, en 2027, jamais l'extrême droite n'a été aussi proche du pouvoir. Et donc oui, en fait, nous, on pense que la meilleure antidote face à l'inquiétude de la montée de l'extrême droite et de la droite réactionnaire, c'est des programmes qui répondent jusqu'au bout aux préoccupations des classes populaires. Après, la France insoumise, ça n'a rien à voir pour nous avec le Parti socialiste. Par contre, on a des désaccords. On ne pense pas que c'est un problème d'étiquette ou un problème de marque, mais on pense qu'il y a des désaccords sur la méthode et sur le programme qui sont importants. Par exemple, moi, je suis fière d'avoir sur ma liste des conducteurs de bus, de métro, des chauffeurs VTC. Et je vois que Mélenchon, lui, son interlocuteur pour discuter des transports, c'est le patron de Hitch. Mais moi, en fait, à mon meeting électoral, il y a Khaled qui s'est mobilisé avec ses collègues chauffeurs VTC contre le patron de Hitch. Et donc, on voit en fait qu'on n'a pas la même logique. Lui, il est ami avec le patron de Leclerc. Nous, on est amis avec les caissières et les caissiers et ceux qui font tourner les supermarchés et qui vivent de l'exploitation de ces grandes chaînes. Et donc, je pense qu'il y a des vraies divergences. On ne pense pas qu'ils vont jusqu'au bout sur la question des problèmes quotidiens. Nous, on est pour la réquisition sans indemnité et sans condition des logements et des bureaux vides. On ne va pas dire oui, on est pour la réquisition, mais il va falloir voir qu'est-ce qu'on peut faire à tel niveau et demander au préfet et demander la bonne foi de tel acteur public. On ne peut pas réfléchir comme ça. Il faut changer les choses. Et donc, les leviers institutionnels et légaux actuels ne permettent pas de faire que les classes populaires vivent correctement. Et c'est pour ça que notre radicalité, je pense qu'elle est légitime, qu'elle est utile et qu'elle est nécessaire. Et que la gauche institutionnelle ne pourra pas répondre à tout ça, quoi.
Très bien, merci. On reviendra sur votre programme plus en détail dans la deuxième partie. Je voulais revenir un peu sur votre famille politique, tout d'abord, puisqu'on sait que l'extrême gauche, bon, au-delà de tous les fantasmes qu'il y a, surtout en ce moment, c'est des fois assez compliqué de s'y retrouver, même pour des gens de bonne foi, entre le NPA anticapitaliste, le NPA révolutionnaire et Révolution permanente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différences fondamentales selon vous et ce qui fait que vous êtes avec Révolution permanente ? Ou encore Lutte ouvrière que je n'ai pas citée aussi, qui existe, qui est là.
Exactement. Bah, c'est vrai que l'extrême-gauche, elle est diverse et c'est une richesse d'ailleurs. Moi, j'ai commencé mon parcours militant à Révolution permanente quand on était une tendance dans le NPA. Donc je suis désolée pour les auditeurs, peut-être que ça va encore complexifier les choses. Mais nous, on était dans le nouveau parti anticapitaliste. Et ce qu'on portait déjà à l'époque, c'était l'idée de dire, en fait, on est face à une séquence de lutte des classes extrêmement intense, de la loi travail aux gilets jaunes, à la réforme des retraites. Il ne se passe pas une année sans que les masses soient dans la rue et qu'on soit en train de se battre contre le gouvernement. Et il faut mettre toute notre énergie à ça, plutôt que miser sur les élections et sur les alliances électorales précisément. Quand on voit ce qu'est devenu le NPA aujourd'hui, parce qu'ils nous ont virés en 2021, parce qu'on commençait à grandir et notre voix radicale et révolutionnaire assumée, elle commençait à plaire à des secteurs de travailleurs, de jeunes, donc en fait on a été exclus. Mais aujourd'hui, nos trajectoires, elles sont différentes. Le NPA ne se présente pas dans les élections, sauf avec des alliances avec notamment le Parti socialiste. Et pour nous, ça, c'est un point de non-retour, précisément d'être dans des alliances avec François Hollande, Emmanuel Valls. On trouve que c'est un crachat à la figure de toutes les personnes qu'ils ont trahies, en particulier dans les quartiers populaires. Et en même temps, il y a le reste de la gauche trotskiste qui se revendique aussi de la lutte des classes, du rapport de force, des mobilisations. On a des désaccords. Nous, on ne parle pas que de travail et d'économie et de travailleurs. On parle aussi de féminisme, d'antiracisme, de violence policière, d'écologie. On pense que c'est des combats qui sont importants, qui ne sont pas secondaires et qu'on doit, porter un programme sur l'ensemble des questions qui traversent la société et ne pas se résoudre à une position de témoignage qui serait en fait pas à la hauteur de tous les enjeux contemporains qui sont ceux d'aujourd'hui.
Mais vous comprenez que parfois, pour certaines personnes qui sont un peu plus éloignées de la politique, ça puisse être compliqué de comprendre les différences qu'il y a entre tous ces partis d'extrême gauche et vers lesquels se tourner.
Oui, bien sûr, je le comprends tout à fait. Moi, quand j'ai commencé à militer, je trouvais ça nébuleux. Nous, on essaye justement d'expliciter au maximum et de vulgariser au maximum nos réflexions, de ne pas être le cliché en fait, de l'extrême gauche ossifié, qui est incapable de comprendre les préoccupations qui traversent la jeunesse, les classes populaires d'aujourd'hui, de prendre n'importe quel type d'aspiration et d'y répondre en montrant que la meilleure solution, en dernière instance, c'est celle des mobilisations et du collectif et du rapport de force. Mais je comprends que pour plein de gens, ça soit un peu opaque et jargonneux. Mais nous, on travaille justement à faire que la politique, c'est l'affaire de tous et pas un truc ni de politiciens professionnels, ni de militants un peu folkloriques sur les facs que les gens regardent un peu bizarrement et qui repoussent justement de l'engagement. Nous, on veut tout le contraire.
Très bien, je vous remercie. On va quitter cette première partie. Je laisse notre technique nous faire un petit jingle et on revient dans un instant. Très bien. Du coup, on en a fini avec votre parcours. On va parler un petit peu de ce que vous portez pour la mairie de Paris. Je vais laisser Asia poser une première question. Vas-y, Asia.
Alors, votre programme, il assume une rupture qui est très forte avec les règles économiques actuelles. Et vous mettez notamment en avant le fait que Paris devienne une ville pour les riches. Maintenant, moi, ma question, c'est quelles mesures municipales permettraient, selon vous, donc, de renverser concrètement cette tendance ?
Alors, il y en a plusieurs. Effectivement, le point de départ de notre candidature, c'est de voir que, historiquement, Paris, c'est une ville ouvrière populaire, notamment le 13e arrondissement. C'est une ville qui a connu énormément de luttes populaires pour le logement, pour les services publics, etc. Et que nous, on veut récupérer cette ville qui nous a été volée par les milliardaires, par les grandes entreprises, par les grandes banques. On s'oppose clairement, en fait, au projet municipal de la mairie de Paris et de la mairie du 13e. Pour nous, le Parti Socialiste a fait de Paris un cauchemar pour les classes populaires. Et donc, il y a différents points de programme qu'on met en avant. Déjà, une ville aux couleurs de révolution permanente, ça serait une ville où tous les logements et les bureaux vides sont réquisitionnés pour pouvoir loger les femmes qui sont victimes de violences conjugales, les mineurs isolés, les familles qui s'entassent, les étudiants qui sont dans des logements insalubres crous. Ça serait une ville où les services publics, ils ont les moyens de tourner et où, en fait, ceux qui les dirigent, c'est ceux qui les font tourner et ceux qui ont intérêt à des services publics de qualité, c'est-à-dire les usagers. Nous, par exemple, on n'accepte pas que la Salpêtrière, qui est le principal hôpital de France et qui se situe dans le 13e, soit en train de déborder. En parallèle, la mairie, la première chose qu'elle fait dans le secteur, c'est de créer une zone commerciale et de faire des travaux qui n'en finissent pas pour créer un centre commercial dans la gare de Sterlitz, alors qu'en fait, tout cet espace-là, il aurait pu être alloué aux urgences de la Salpêtrière pour faire en sorte que on en finisse avec le tri des patients et avec les urgences surchargées et la maltraitance des soignants. On pense que une ville aux couleurs des révolutions permanentes, ça serait une ville où les propriétés des milliardaires, elles sont expropriées, tout simplement. Nous, on est scandalisés de savoir que Xavier Niel, qui pèse quand même 28 milliards d'euros, c'est le patron d'Iliad Free, il a acheté 1800 euros le mètre carré la Halle Fraissinet, qui est une ancienne gare de marchandises dans le 13e arrondissement. Il l'a acheté pour des petites miettes. Il en a fait un paradis des start-up et des multinationales comme Total, comme Thales. Nous, on veut exproprier ce lieu pour en faire un espace de culture, de loisirs, pour en faire une cantine universitaire pour tous les étudiants qui ne peuvent pas aller se restaurer au restaurant universitaire de La Barge. C'est 300 repas alors qu'on est 60 000 étudiants à étudier dans cet arrondissement. On pense que une ville qui tournerait avec Révolution Permanente à sa tête, ça serait une ville qui consulterait systématiquement la population pour tous les projets municipaux. On pense que c'est scandaleux, par exemple, que la mairie, elle ait fermé un lieu associatif très important qui s'appelle les AMAR, qui faisait de l'accès aux droits pour les personnes étrangères, qui leur permettait d'avoir accès à des douches, à des repas, du repos. Ils l'ont fermé pour mettre en place en fait un espèce d'hôtel logistique, fluvial, etc., pour favoriser précisément les flux au service des grandes entreprises. C'est pas un arrondissement qui nous ressemble et on considère tout simplement que quand on étudie ici, qu'on travaille ici, on devrait pouvoir vivre ici correctement, dignement, que ça n'est pas le cas aujourd'hui, mais que on est prêt à se battre pour aller dans le sens de ces mesures. Par contre, je dis quelque chose qui est important pour nous. On ne pense pas que même avec la majorité municipale à révolution permanente, on pourrait aller au bout de ces mesures uniquement dans les instances. Nous, on pense que la mobilisation, elle est essentielle et que les élus doivent être au service de la construction des résistances et des mobilisations nécessaires pour précisément arracher les moyens suffisants pour les services publics, pour réquisitionner les logements sans s'en tenir en fait au contrôle des préfectures. Moi, j'ai une expérience dans les conseils universitaires. J'ai été élue étudiante pour le Point Levé, qui est le collectif de jeunesse de révolution permanente, qui est une des principales forces à Paris 1, à Paris Cité et dans plein de villes en France. Je sais ce que c'est des conseils qui sont antidémocratiques, opaques, où on est minoritaire. Et je sais m'en sortir avec ces coordonnées-là. Et je sais que des élus de combat, c'est utile pour la population, comme ça l'a été pour les étudiants, parce qu'en fait, n'importe quelle attaque qui passe, nous, on est intransigeants. On alerte la population, on fait en sorte qu'il y ait des résistances par le bas qui s'opèrent. On a fait tout un travail contre les bailleurs sociaux qui se gavent en fait sur le dos des classes populaires. Vous allez dans les logements sociaux du 13e, Jérôme Coumé, le maire du 13e, il dit qu'il y a 40% de logements sociaux. C'est vrai, mais en fait, allez voir la gueule de ces logements sociaux. L'air est irrespirable dans la plupart des habitations. C'est irrespirable, les gens ont des problèmes de santé. Et Jérôme Coumé, il est au conseil d'administration de Paris Habitat. Donc en fait, la politique des bailleurs sociaux dans Paris, c'est de rendre les logements sociaux insalubres, inhabitables, pour que les classes populaires perdent espoir, quittent Paris, ensuite rénover, augmenter les loyers et que ça soit accessible pour des personnes qui sont beaucoup plus aisées. C'est une politique de chasse des pauvres qui ne dit pas son nom. Et pour tout ça, nous, on a commencé à mettre en place des réseaux avec des habitants pour faire en sorte que quand il y a un rendez-vous qui doit être pris et où en fait les habitants ils ont une fin de non-recevoir, il n'y a même pas quelqu'un qui leur répond au téléphone, en fait nous on fasse pression pour que en fait le rendez-vous il soit obtenu, que les habitants aient quelqu'un qui leur réponde sur leur insalubrité, que ça bouge au niveau des résidences. On a une grande tradition de lutte pour le logement digne à Paris et ailleurs. Dans les années 70, il y a eu des grandes grèves des loyers initiées en fait par les travailleurs des foyers pour migrants qui ont fait des grèves du loyer pour exiger la baisse des charges et des loyers et la régularisation des sans-papiers. Et ils ont obtenu gain de cause à plein d'égards. Donc en fait, c'est à ça que devraient servir pour nous des représentants dignes des classes populaires. On ne se présente pas juste pour dire on existe, on est là et les anticapitalistes et révolutionnaires sont là. On veut vraiment accéder aux conseils municipaux, mais pas en disant aux gens « surtout ne faites rien, on s'occupe de tout ». On ne veut pas pacifier la population, on veut organiser sa colère, la sublimer et faire en sorte qu'il y ait des résistances collectives. Et on pense que ça serait utile pour faire de Paris un bastion des résistances populaires face à l'austérité, au prix de l'essence, à l'inflation, aux problèmes de conditions de travail, à cette ère de guerre et de génocide à Gaza qu'on est en train de nous imposer de partout, quoi. Comme Minneapolis. Nous, c'est notre exemple. Je ne sais pas si vous voulez que je développe. Mais pour nous, Minneapolis, c'est un exemple de ce que pourraient faire les habitants.
D'autodéfense populaire, c'est ça ?
D'autodéfense populaire face à ICE. De dire, OK, en fait, les habitants, ils vont s'auto-organiser. Ils vont faire des rondes dans les quartiers pour faire en sorte que les enfants ne se fassent pas rafler sur la route pour l'école, syndicats de locataires qui s'organisent pour baisser et geler les loyers, d'habitants qui font front en fait face à ICE quand ils essayent d'arrêter des gens. Ça, c'est une boussole pour nous.
Très bien, je vous remercie. Vous définissez votre programme comme un programme de lutte. Donc on voit aussi dans votre approche de ce que serait un rôle d'élu, il y a une différence avec ce qu'on voit traditionnellement. Ça veut dire que vous voyez comme des personnes qui vont en gros continuer le combat de la rue, c'est ça, et que vous allez porter dans les instances politiques, mais rester en lien avec ce qui se passe, donc les manifestations, et en gros vous allez être, vous voyez comme une espèce de continuité du dialogue social et de la révolte, on va dire, on peut le dire comme ça.
Alors nous, dans les instances, on ne dialogue pas au sens où on ne va pas accepter de négocier sur le dos des classes populaires. Par exemple, je faisais le parallèle avec les conseils universitaires. Nous, dans les conseils universitaires, on a vu passer plein de réformes, plein de projets de réformes. Récemment, il y a eu un projet de réforme à Paris 1, donc une université centrale du 13e arrondissement, qui voulait supprimer les rattrapages et faire en sorte que en fait, ça soit beaucoup plus difficile de valider son année. C'était une réforme de tri social plus. Nous, on était dans les conseils. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a alerté les étudiants. On a fait des motions avec les autres élus de gauche pour faire en sorte le plus possible que ça ne passe pas dans le conseil. Mais en parallèle, oui, on était sur le terrain, en train d'organiser les assemblées générales, en train de faire qu'il y ait des manifestations, des débrayages, en mobilisant les profs et les personnels, en disant en fait, vous ne pouvez pas laisser passer cette attaque. Et donc, on n'a pas négocié. On n'a pas dit, on va aller dans un bureau, boire un petit café et du thé avec la direction et voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme compromis, comme arrangement. Nous, on ne va pas trouver d'arrangement avec Xavier Niel et avec le Parti Socialiste qui a viré les mineurs isolés de la gaieté lyrique, qui fait dormir des gens dehors, qui favorise les ultra-riches et qui fait venir Thalès et Total à la station F, qui sont des entreprises complices du génocide. On ne trouvera pas de compromis, ça n'est pas notre ADN. Par contre, effectivement, notre rôle d'élu, si on est dans les conseils, c'est que ça va nous servir, parce que sinon, on ne se présenterait pas. Nous, on veut y être pour avoir un œil sur ce qui se passe et pour pouvoir passer des motions, organiser des pétitions, organiser des consultations, alerter les populations ciblées par ces attaques et faire le relais entre le conseil, ce qui s'y dit, ce qui s'y fait et ce qui se passe dans la rue, effectivement. Mais ce n'est pas du dialogue social à proprement parler. Ce n'est pas de compromission et pas de négociation avec les ennemis des conditions de vie en fait de la population.
Mais c'est bien du coup une rupture avec ce qu'on voit habituellement dans la façon de faire de la politique en fait. Vous voyez plus loin que le fait d'être présent, c'est vraiment la continuité du, on appelle ça dialogue social, mais voilà, c'est vraiment une continuité des luttes dans les instances gouvernantes.
Ouais, c'est ça, c'est une continuité dans ce sens-là. Les luttes arrivent dans le conseil et le conseil et notre place dedans sert à alimenter les luttes en retour et leur donner les outils de résister. Donc ça va dans les deux sens en fait.
Très bien, merci. Assia, à toi.
Donc on entend de votre part une forte critique du Parti Socialiste, mais pour vous, quelles décisions auraient dû être prises différemment, notamment pour éviter cette gentrification qui ne fait que d'augmenter ?
Bah tout. Enfin, il n'y a rien que je garderais du bilan du Parti Socialiste.
Rien du tout.
Rien du tout. Des loyers, même s'il n'est pas assez...
Bah, non, la réalité, c'est que par exemple, oui, l'encadrement des loyers dit ça, mais par exemple, dans le 13e, ils sont propriétaires des Frigos, qui est un lieu où habitent depuis 40 ans des artistes et des habitants pauvres. Les loyers ne sont pas encadrés. C'est 2000 euros par habitant que demande la mairie à ces gens-là. Ils sont en train de leur faire une procédure d'expulsion avec 100 euros par jour supplémentaire où ils ne quittent pas les lieux. C'est ce niveau de violence sociale-là. Donc en fait, oui, je veux bien qu'Hidalgo, juste avant les élections, elle aille faire des 3 ou 7 logements sociaux, place Victor Hugo. C'est très joli, mais en fait, ça ne change rien. Donc non, moi, je garderai rien du bilan du Parti Socialiste. Après, moi, j'alerte aussi sur le fait que la droite et l'extrême droite veulent faire pire. La droite et l'extrême droite veulent s'appuyer sur ce qu'a fait le PS pour aller beaucoup plus loin. Quand Hidalgo, elle est amie avec Xavier Niel, Pinault, Bernard Arnault, qu'elle favorise les projets de ces milliardaires au sein de Paris, que ce soit la station F, mais c'est aussi d'autres projets que ces milliardaires ils ont dans la capitale. Je pense pas que ça puisse que cet logement social à place Victor Hugo, ça puisse compenser tout ça. Quand elle détruit la fonction publique municipale, qu'elle réprime les grèves des agents municipaux et qu'elle externalise, par exemple, certaines tâches comme les tâches de nettoyage dans les écoles à des sous-traitances qui vont encore plus exploiter, opprimer des travailleurs pauvres. Pour moi, il n'y a rien à récupérer de tout ça, et y compris sur le bilan sécuritaire. Je pense que c'est important de le dire. Le PS est catastrophique. C'est eux qui ont armé les policiers municipaux à Paris. J'entends Jérôme Coumet parler des feux d'artifice que feraient les jeunes sur la dalle des Olympiades et dans le 13e comme une menace de première envergure. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt la misère sociale qu'on voit tous les jours, et je pense que c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Donc voilà, il faut...
On reviendra plus précisément de toute façon sur la sécurité, j'avais une question à ce sujet, mais on va laisser Assia continuer.
Oui, moi je voulais juste revenir sur l'expropriation des propriétés privées comme Station F, que vous avez cité tout à l'heure. En fait, juridiquement parlant, à l'échelle d'une municipalité, quelles mesures pouvez-vous mettre en place ?
Quel levier ils ont pour essayer de rendre ces réquisitions, ces expropriations possibles, c'est ça ?
Oui. Alors, il y a le cadre légal tel qu'il existe, c'est-à-dire que les municipalités, elles peuvent, dans des conditions restrictives, d'urgence, d'intérêt général absolu, décider de réquisitionner certains espaces. Tout est fait pour que ça n'arrive jamais. Tout est fait pour déposséder les habitants de ce qui les entoure au quotidien. Donc si on se réfère uniquement à ce cadre légal-là, qui donne une prépondérance au pouvoir de la préfecture sur ce thème de la réquisition, et qu'on s'en tient à ces conditions restrictives autour de l'urgence et de l'intérêt général qui peuvent être par ailleurs remis en question par le tribunal administratif, par le gouvernement, par les autorités administratives, ça va être dur d'arriver au programme qu'on dit. Donc ça, c'est une évidence. C'est pour ça que nous, on ne dit pas nous, notre programme, c'est uniquement un programme électoral. Votez pour nous, on s'occupe du reste. Parce que ça serait mentir. Mais la réalité, c'est que même des programmes beaucoup plus minimaux, qui ne veulent pas tout réquisitionner, qui disent juste qu'ils vont encadrer les loyers un peu jusqu'au bout, correctement, etc. Même ça, ils ne vont pas y arriver. Parce qu'en fait, ils vont avoir les leviers légaux, institutionnels, ultra minimaux. Ils vont avoir dans les pattes tous les propriétaires, les bailleurs sociaux, tous ceux qui ont intérêt justement à faire de Paris une ville pour les riches. Et donc, ce n'est pas parce que le programme est minimal qu'on y arrive plus. Donc nous, notre solution, tout en répondant jusqu'au bout aux problèmes de la population, effectivement, c'est les leviers populaires et collectifs. Effectivement, exproprier la station F, je ne pense pas que ça soit légal. Donc nous, on le dit aussi comme une mesure pour dénoncer la confiscation de l'espace public par des milliardaires. Nous, ça, par exemple, ce qui est symbolique aussi avec la station F, c'est que c'est l'endroit aussi où Macron, il a fait son speech en 2017 en disant « Dans les gares, on croise ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. » Et ça dit beaucoup de leur projet pour le 13e. Donc oui, nous, en fait, on a été nombreux, d'ailleurs, à envahir cette station F dans le cadre des mobilisations, parce qu'en fait, c'est un lieu qui cristallise beaucoup le mépris de classe, la haine de classe, etc. Donc nous, on a des leviers qui sont populaires, et en même temps, on va s'appuyer sur tous les leviers légaux qu'on a, mais qui sont restreints, quoi.
Je voulais vous poser une question aussi sur votre politique jeunesse. Vous mettez la jeunesse au cœur de votre campagne. Comment vous comptez rendre Paris plus accessible aux jeunes, notamment aux étudiants, etc.
Bah, c'est clair que ça, c'est un enjeu de premier plan. La première des choses, c'est, comme je le disais déjà pour d'autres secteurs de la population dans le besoin, ça serait de réquisitionner les logements et les bureaux vides pour y loger une partie des étudiants. Ça serait aussi d'avoir un grand plan de rénovation des résidences universitaires qui sont extrêmement insalubres et qui font que les étudiants vivent avec les cafards et les punaises de lit. Mais on veut aller même beaucoup plus loin que ça. Il y a la question de la restauration. On pense qu'il va falloir ouvrir des restaurants universitaires dans l'arrondissement. Jérôme Coumet est fier de dire que le 13e, c'est le nouveau quartier latin, dans le sens de dire que c'est le nouveau quartier étudiant. La réalité, c'est quand on est étudiant ici, on ne peut rien s'offrir. Les pintes, elles sont à 12 balles. Les commerces, ils sont trop chers, etc. Donc, on veut des restaurants universitaires, des cantines populaires, des logements réquisitionnés Mais aussi, on pense que, et ça c'est quelque chose qu'on porte au-delà des élections dans les universités, on veut un revenu étudiant qui soit financé par un impôt fortement progressif sur les grandes entreprises. Parce qu'on pense que l'argent, il existe et qu'il faut aller le chercher là où il est. Quand on voit en fait les milliardaires, les dividendes des actionnaires, etc., on pense que tout cet argent-là, il devrait revenir au financement d'un revenu qui permet aux étudiants de vivre correctement et de ne plus avoir à travailler à côté de leurs études. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va commencer à résoudre jusqu'au bout le problème de la précarité, qui pour nous est un problème important. Et ensuite, réouvrir tous les centres de jeunesse. Il y a une antenne de jeunesse qui a fermé là récemment, c'est sur la dalle des Olympiades, mais en fait, elle a fermé régulièrement en fait...
Mais je crois qu'elle a été reconstruite ailleurs. La structure jeunesse des Olympiades, elle est en train d'être... Elle a même déjà ouverte, elle a été reconstruite ailleurs.
Là, elle est réouverte.
Oui. Exactement au même endroit, mais plus loin sur la place des Olympiades, elle a été réouverte à la
même
structure.
Parce que nous, il y a plein de jeunes justement qui nous ont alertés sur ce problème-là. C'est une antenne jeunesse qui a été fermée à de nombreuses reprises.
Exactement.
Parce qu'en fait, la mairie la fermait, alors qu'en fait, c'était vraiment le symptôme précisément de la misère de la jeunesse dans l'arrondissement. Et donc, nous, on est pour rouvrir toutes les antennes de jeunesse qui auraient été fermées. Et en ouvrir davantage parce que c'est essentiel et que sinon la jeunesse, elle est laissée à elle seule dans un arrondissement qui est hostile.
Et je vous souffle quelque chose, il faudrait aussi voir ce qu'on y fait en antenne jeunesse, parce que c'est bien beau des structures jeunesse, mais s'il n'y a pas le personnel qui est formé et des gens qui sont compétents pour accompagner les jeunes, on ne va pas très loin.
Exactement.
Sur ce, je voulais parler de sécurité, on l'avait dit tout à l'heure. Paris, c'est une ville où il y a eu beaucoup, beaucoup de caméras qui ont été construites ces dernières années par la droite, puis la gauche aussi. Vous avez une doctrine complètement différente en ce qui concerne la sécurité, même du reste de la gauche, hein, même LFI qu'on a reçu, c'est complètement différent. Vous voulez non pas plus de policiers, de proximité ou quoi que ce soit, vous voulez complètement désarmer la police municipale et dissoudre les corps spéciaux. À votre avis, en quoi vos propositions, elles vont régler le problème de fond qu'il y a entre la police et les habitants aujourd'hui?
En fait, le problème de fond, c'est de savoir comment est-ce qu'on veut répondre à la misère sociale. Est-ce qu'on veut y répondre par des mesures sécuritaires ou est-ce qu'on veut y répondre par des mesures qui sont sociales? Nous, on pense que l'armement de la police municipale à Paris en 2021, c'est une réponse sécuritaire qui ne va jamais résoudre les problèmes de fond qui se posent. Quand vous réduisez les budgets pour les services publics, pour les universités, pour les antennes jeunesse, quand vous faites que la jeunesse, elle est précaire, qu'elle n'a pas de débouchés professionnels, vous la mettez dans une situation où en fait, il n'y a pas d'espace de culture, il n'y a pas d'espace de loisirs, il n'y a pas d'avenir. En fait, ça alimente ce qu'eux, ils appellent l'insécurité, mais que nous, on appelle la misère sociale. Et donc, notre réponse face à tout ça, c'est tout le programme qu'on a déroulé jusqu'ici. Le désarmement de la police municipale, pour nous, c'est un principe élémentaire, parce que la police, c'est pas un service public. Enfin, il n'y a pas d'équivalence pour nous entre les gens qui soignent et les gens qui brutalisent. La police, quand elle a des armes, c'est pour les utiliser. Quand Naël meurt sous les coups de la police, c'est une donnée importante pour nous. Quand il y a El Hassan Diarra qui meurt récemment dans le 20e arrondissement au commissariat du 20e, l'expression de la brutalité de la police. Et nous, on ne pense pas qu'on puisse réformer ça ou que ça passe par plus de moyens. Pareil, la vidéosurveillance, il y a certains candidats qui disent c'est pour les femmes, pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Les violences sexistes et sexuelles, déjà, elles ont lieu en premier lieu et extrêmement majoritairement dans la sphère privée, familiale et privée. Donc en fait, la vidéosurveillance, la réalité, c'est que c'est pour fliquer, pister et contrôler les jeunes, les travailleurs, les classes populaires dans l'espace public. Et nous, on s'oppose à ça. Et effectivement, la France Insoumise a beaucoup reculé sur cette question. Au départ, ils avaient fait un programme où ils disaient « désarmement de la police municipale ». En réalité, plus ça va et plus ils fusionnent en fait avec la surenchère sécuritaire. J'entendais une interview de Chikirou qui disait en fait il faut une brigade pour les touristes, une brigade pour les gens qui traînent dans la rue, une brigade pour les gens qui consomment de la drogue, une brigade pour les VSS. En fait, c'est pas possible de répondre systématiquement sous le prisme de la sécurité et de la violence à ce que les gens vivent au quotidien, quoi. C'est pas possible.
Merci. Assia, encore une question ?
Oui, alors donc c'est concernant la jeunesse et notamment la jeunesse parisienne. J'ai deux questions. Est-ce que vous pensez que la jeunesse est aujourd'hui plus politisée qu'avant ? Et comment vous feriez pour que les jeunes aient un impact plus grand dans les décisions politiques de la ville ?
Alors, je pense qu'on a beaucoup dépeint la jeunesse de ces dernières années comme une jeunesse ignorante, désintéressée de la politique, parce qu'elle s'abstient. Et moi, je pense que c'est un mauvais prisme de lecture, parce que la jeunesse, elle s'abstient parce qu'elle est dégoûtée des institutions et du système tel qu'il est. Par contre, je pense que oui, elle est de plus en plus politisée, qu'elle s'intéresse à la politique, parce qu'en fait, la politique s'intéresse à elle. Et donc, en réaction, les jeunes, oui, ils s'intéressent aux études, aux droits démocratiques, aux violences policières, à l'écologie, à la guerre, au génocide à Gaza. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle. Et que d'ailleurs, je pense que on nous répond en nous réprimant, en nous brutalisant. Donc ça veut dire que notre voix, elle a un impact, mais que ça ne va pas dans le sens des classes dominantes. Parce qu'en fait, quand on se mobilise dans son université, on va nous envoyer la police, on va fermer la fac, on va nous sanctionner disciplinairement. Il y a des jeunes, ils ont pris des procès parce qu'ils soutenaient la Palestine ces dernières années. Et donc, en fait, notre voix, elle dérange, mais précisément parce qu'elle a un poids. Et je pense qu'il faut développer tout ça. C'est pour ça que nous, notre liste, elle est jeune. Je pense que vous l'avez dit. Après, elle est variée. Il y a toutes les tranches d'âge. Et on est fiers aussi de représenter tous les secteurs du monde du travail, toutes les tranches d'âge. Mais on donne un poids aussi important à la jeunesse parce que c'est notre avenir qui se joue là. Et je pense que dans les décisions municipales, effectivement, la jeunesse, elle devrait avoir un poids beaucoup plus important. Elle devrait être une priorité pour la mairie. Mais la réalité, c'est que souvent, il nous dit ça. Les gens qui sont élus, même Macron, disait « mon mandat va être dédié à la jeunesse ». Et en fait,
et aux femmes, il avait dit.
Et aux femmes.
On voit les résultats.
Et on voit les résultats, service militaire obligatoire, etc. etc. Donc oui, en fait, c'est une nécessité, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et je pense qu'une façon aussi de donner plus de voix à la jeunesse, c'est de porter au maximum les mobilisations et les revendications qu'elle porte, de les relayer, de les visibiliser, de les appuyer. Je pense que c'est une nécessité et nous, on essaye aussi de faire ça avec tous les relais qui sont soit sur les réseaux sociaux, soit directement en ayant des positions dans les universités, en ayant un collectif de jeunesse de plusieurs centaines d'étudiants, en s'organisant contre l'extrême droite sur les campus quand ils sont là. Et je pense que c'est dans cette direction qu'il faut qu'on aille.
Très bien, je vous remercie. On va juste écouter un petit jingle et on va revenir pour la troisième partie. Donc on va rester dans cette troisième partie sur la deuxième grande priorité de Macron sur son deuxième quinquennat, du coup les femmes, puisque vous avez manifesté pour le 8 mai, c'était il y a quelques jours.
8 mars.
Le 8 mars, pardon, j'ai dit 8 mai, 8 mai 45, je mélange tout, c'est les jours fériés qui me manquent. Donc il y a une grosse manifestation, et déjà vous aviez beaucoup réagi au salcon de Brigitte Macron il y a quelques semaines, et on voit que vous avez quand même... une certaine vision de ce 8 mars, ça veut dire que vous critiquez le féminisme dépolitisé qui peut apparaître aujourd'hui dans les médias et vous dites que vous représentez un pôle internationaliste et anti-impérialiste. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à voir ce que ça a à voir avec le féminisme. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, s'il vous plaît ?
Oui, bien sûr. Oui, le 8 mars, on a fait un cortège anticolonial, anti-impérialiste pour la Palestine et pour les femmes du Moyen-Orient qui sont sous les bombes actuellement des États-Unis et d'Israël. Pour nous, c'était une nécessité. Parce qu'on voit beaucoup à tous les niveaux, au niveau municipal on le voit avec NAFO, avec Dati, mais au niveau international on voit que la lutte pour les droits des femmes est instrumentalisée de manière crasse par tous les réactionnaires et on avait envie de réaffirmer que le féminisme c'est une lutte pour les droits de toutes et tous et notamment pour les droits des femmes à l'international. Et donc, quand on voit en fait les États-Unis qui bombardent des écoles en Iran, qui bombardent des gymnases, qui utilisent les droits des femmes pour massacrer la population en Iran, pour justifier que Israël massacre la population en Palestine et au Liban, En fait, on ne peut pas rester silencieux. Nous, on articule en fait la question du féminisme à la question de l'antiracisme et de l'anti-impérialisme. Dans la séquence, on le voit, en fait, plus ça va et plus la barbarie se développe. Y compris d'un point de vue programmatique, nous, on défend en fait l'arrêt de la guerre au Proche-Orient, l'arrêt de l'intervention militaire française au Proche-Orient, parce que c'est une donnée que personne ne dit ici, mais en fait, la France, elle est impliquée dans la guerre aux côtés des États-Unis et d'Israël. Elle contribue aussi à opprimer les populations là-bas. Et en fait, si les États-Unis et Israël gagnent la guerre, il n'y aura plus d'Iran, de Palestine ou de Liban. Ça serait un recul, y compris pour la lutte pour le peuple palestinien. Donc, il y a cette question-là, mais il y a aussi la question du droit des personnes étrangères. Nous, on refuse l'instrumentalisation raciste de Némésis, de Knafo, qui font comme si, en fait, les auteurs des féminicides et les auteurs des viols et des violences excitées sexuelles, c'était des étrangers ou des mineurs isolés, alors qu'on le disait, ça se passe dans la sphère familiale. Donc, en fait, les seuls féminicides qu'elles daignent bien regarder, c'est quand il y a de loin ou de près un étranger dans le lot. Nous, on refuse en fait cette politique. On est pour la régularisation des sans-papiers, pour leur droit de vote. On est pour l'ouverture de centres d'hébergement pour que ces personnes arrêtent d'être traquées par la police municipale, arrêtent de dormir à la rue, etc. Donc, c'est ça notre féminisme, effectivement. C'est pas la journée de la femme, c'est une journée de lutte internationale et internationaliste.
Je vous remercie. Dans vos propos, vous avez parlé aussi d'un 13e, de la Palestine, et vous parlez d'un 13e pro-palestinien. J'aimerais savoir comment ça se manifesterait concrètement.
Par exemple, on devrait mettre en place un débat collectif démocratique pour savoir avec quelle ville palestinienne on pourrait se jumeler. Ça se fait beaucoup, mais en réalité, il y a certaines villes qui se jumellent avec des villes israéliennes. On a envie de donner la voix et de la visibilité à la population palestinienne. Ça pourrait passer par des jumelages, par des partenariats d'échange entre les habitants de Palestine et les habitants du 13e arrondissement. Nous, on est pour aussi faire en sorte que les associations de la cause palestinienne, elles puissent se réunir correctement et librement dans l'arrondissement. C'est pas le cas. On a eu des échos de militants pro-palestiniens qui disent que c'est très difficile, alors même qu'ils sont des associations reconnues depuis des décennies, pour pouvoir trouver des salles dans l'arrondissement. Ça nous semble pas normal. Après, on est pour la liberté de manifester pour le peuple palestinien. Et ça a été un droit qui a été bafoué de A à Z par le Parti socialiste. Depuis le génocide à Gaza, mais même en amont, il y avait eu des mobilisations en 2021, elles avaient été interdites aussi. Oui, nous, on est pour un 13e aux couleurs de la Palestine, mais c'est aussi permettre en fait que toute la mobilisation, elle puisse s'exprimer dans le 13e jusqu'au bout, que les fresques aux couleurs de la Palestine, elles puissent exister, qu'elles ne soient pas censurées, qu'il y ait des réunions qui puissent se tenir et qu'on soit jumelé avec les villes palestiniennes, pour le dire rapidement.
Très bien. L'actualité politique en France, c'est aussi la mort du militant néofasciste Quentin. On voit que tous les mouvements du coup antifascistes sont attaqués, que ce soit dans la rue, sur les médias, etc. Vous, que ce soit politiquement ou comme je le disais dans la rue, au niveau de ce qui se passe, c'est quoi votre réaction et comment lutter contre l'extrême droite qui prend plus de place autant dans le débat, mais que on voit que ces idées sont de plus en plus acceptées, reprises, etc.
C'est vrai que la mort de ce militant néofasciste, elle a fait beaucoup de bruit. Moi, ce qui m'a choqué, c'est à quel point le récit mensonger de Némésis était devenu le récit officiel de l'État et de Macron. On voit en fait aujourd'hui, on sait que ce sont les militants néofascistes qui ont attaqué les militants antifascistes, que ce sont des violences qui sont régulières en fait à Lyon. Le discours de Macron et du gouvernement, c'est de criminaliser l'antifascisme et c'est de criminaliser l'ensemble du mouvement social. Nous, on l'a vu sur les universités, ils ont utilisé la mort de Quentin Derenque pour justifier d'interdire des réunions politiques sur les facs. Donc en fait, on l'a vu avec la Palestine, on l'avait vu avec les mobilisations précédentes, ils font tout pour empêcher la jeunesse de parler et de se mobiliser. Et donc ça a été une mort instrumentalisée à cette fin liberticide et autoritaire. On a vu à quel point en fait le régime était poreux aux idées réactionnaires du racisme. Quand on voit qu'en fait il y a une minute de silence pour un antisémite à l'Assemblée nationale, ça laisse perplexe. Mais du coup, nous, on s'oppose évidemment à toute cette rhétorique de criminalisation de l'antifascisme. L'antifascisme, c'est une réponse aux violences de l'extrême droite. Et nous, on les vit au quotidien. En tant qu'étudiant et comme membre du Point Levé, on voit en fait que l'extrême droite essaie de se renforcer dans les universités, qu'à chaque moment électoral, elle vient avec des services d'ordre qui sont cagoulés, gantés, devant Tolbiac, devant des campus qui sont populaires pour mettre la pression à des étudiants qui sont de gauche ou des étudiants étrangers pour défendre un projet élitiste à l'université. Et donc face à ça, il faut s'organiser. Nous, on a mis en place des comités d'action contre l'extrême droite. C'est des comités qui permettent d'organiser des débats, des conférences sur l'histoire de l'extrême droite, sur la violence de l'extrême droite, sur l'idéologie réactionnaire pour la combattre, mais qui permet aussi d'organiser l'autodéfense. Parce qu'en fait, quand vous avez des gens qui viennent avec des anciens de génération identitaire du GUD qui viennent pour tracter des tracts sur le grand remplacement, vous ne pouvez pas ne rien faire. Et donc, on a mis en place des comités d'action qui permettent aux étudiants de s'organiser eux-mêmes pour les empêcher de venir sur les campus et pour sécuriser les campus pour toutes les personnes étrangères, LGBT, femmes, qui pourraient pâtir en fait de leur présence sur le campus.
Très bien. On n'a pas parlé beaucoup de santé aujourd'hui, alors qu'on a reçu beaucoup de médecins urgentistes, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui sont candidats dans le 13e arrondissement. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous détailler vos propositions pour la santé dans le 13e?
Ouais, alors moi déjà, parce qu'on avait fait une réunion sur le programme pour la santé, et en fait j'avais été choquée d'apprendre qu'il y avait un centre, le centre Houdiné-Vallée, qui avait ouvert et qui tournait grâce à des médecins retraités, tellement en fait les urgences hospitalières elles débordent et qu'il n'y a pas de moyens. Donc en fait c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie qui se sacrifient pour permettre aux gens d'accéder à la santé. C'est une très bonne action, mais c'est assez scandaleux en fait qu'on fonctionne comme ça. Nous, on est évidemment pour avoir les moyens adéquats pour la santé. On est pour la fin des partenariats officieux entre la santé et l'armée, parce qu'en fait, on a vu le ministère, il a donné la consigne aux hôpitaux de se préparer à accueillir des blessés de guerre. Donc ça dit un peu quelque chose du rôle des hôpitaux et de la santé plus en général dans le projet guerrier militariste du gouvernement. On est pour augmenter les budgets, pour augmenter les effectifs. On est aussi pour que en fait, les travailleurs, les usagers de la santé soient ceux qui décident de l'avenir des hôpitaux, parce qu'en fait, on ne peut pas faire confiance au gouvernement et aux agences régionales de santé pour nous permettre d'avoir accès à une santé gratuite, ouverte à tous et publique, sachant qu'ils ont détruit l'hôpital public. On est pour la réouverture de tous les centres de santé qui sont menacés ou qui ont été fermés ces dernières années. Et on est, par exemple, ça c'est une compétence de la mairie, on est pour que des logements soient ouverts. Il y en a certains, mais en fait il en faudrait plus, parce qu'il y a certains soignants qui font des heures de transport pour pouvoir aller travailler à la Salpêtrière. Il faudrait que ces soignants-là habitent à côté de leur lieu de travail. Et évidemment, liberté de culte, c'est pas possible en fait qu'à la Salpêtrière il y ait une soignante comme Majdouline qui soit réprimée pour le port du calot. C'est une chasse aux sorcières, chasse aux sorcières, chasse islamophobe, répression dégueulasse en fait des soignantes. C'est une politique de mise au pas des travailleurs les plus essentiels de la société pour lui faire accepter les coupes budgétaires, etc. Donc c'est globalement ça notre programme. Et après, on a un programme pour l'ensemble des travailleurs des services publics. On pense qu'il faut augmenter les effectifs, qu'il faudrait qu'ils soient qu'ils travaillent 32 heures payées 35. On pense que oui, en fait, il faut plus de gens, moins d'heures de travail et plus de moyens, et que tout soit géré par les habitants et les travailleurs eux-mêmes.
Il y a une question qui passionne aussi beaucoup en rapport avec la santé, c'est les personnes qui prennent de la drogue, drogue dure notamment, qui peuvent être à la rue, qui peuvent être faire monter l'insécurité comme ça a été dit. Vous, c'est quoi votre position par rapport à ça, sachant que il y a notamment le débat qui a été mis sur la table pour ces élections, salle de shoot encore, où est-ce qu'on arrête, etc. Vous, comment vous voyez ce lien en fait qui est un petit peu à la fois sur la santé, sur la sécurité, etc., avec toujours la misère sociale en toile de fond?
Ouais, bah, je pense que ça va dans le sens de tout ce qu'on discutait sur la question de la misère sociale et la réponse sécuritaire. Ces sujets-là, nous, on ne veut pas les prendre sous le prisme sécuritaire. Il faudrait permettre à ces gens-là d'avoir accès à des travailleurs formés, à des centres qui peuvent les prendre en charge, arrêter de criminaliser ces consommateurs et ces personnes qui sont victimes d'addiction, et faire en sorte qu'il y ait des lieux qui soient habilités en fait à traiter leurs problématiques, et qui soient habilités en fait à leur permettre d'avancer dans le sens d'un sevrage. Nous, on ne pense pas qu'on puisse répondre à ça par des brigades policières, etc., etc. La réalité, c'est que plus il y a de réponses sécuritaires, et plus en fait ça se développe. Et je pense pas qu'on puisse résoudre jusqu'au bout. Enfin, c'est une question complexe. Donc oui, nous, on est pour qu'il y ait des moyens qui soient alloués à des centres spécifiques d'accueil des personnes dans le besoin, avec des travailleurs qui soient formés, qui soient bien payés et qui puissent jusqu'au bout répondre à la problématique. Les travailleurs sociaux, ils sont essentiels à la municipalité, et je pense que ça doit être la première des réponses à donner à ce type de problématique, quoi.
Alors, il y a une thématique qu'on n'a pas abordée aussi, c'est celle de l'écologie. Donc, vous défendez une écologie que vous qualifiez d'anticapitaliste. Mais concrètement, en quoi cette écologie se distingue de l'écologie institutionnelle qui est aujourd'hui menée par la ville de Paris?
Elle se distingue assez profondément. La réalité, c'est que nous, on est... Oui, en fait, on pense que ceux qui détruisent la planète, c'est pas les gens individuellement, parce qu'il y a beaucoup un discours culpabilisant et qui s'attaque aussi beaucoup aux classes populaires, parce qu'en fait, elles prennent la voiture, parce qu'elles mangent de la viande, parce qu'en fait, elles oublient d'éteindre la lumière en sortant de chez elles, etc. Alors qu'en fait, on a des multinationales comme Total en France qui détruisent la planète. Donc ça, c'est le premier pas. Nous, on a mené beaucoup de luttes écologiques avec des travailleurs des secteurs polluants. Par exemple, Total, on a mené des grèves dans les raffineries pour la reconversion de la production au service de la transition écologique et pour le maintien des emplois. Parce qu'en fait, les grandes entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles font du greenwashing. Ça veut dire qu'elles ferment des entreprises, elles suppriment des emplois, elles détruisent les conditions de vie de certaines familles qui se retrouvent au chômage au nom de l'écologie et de la transition écologique, parce qu'en fait, elles sont juste en train de délocaliser des pipelines et des raffineries en Afrique et dans les pays sous domination impérialiste. Nous, ce qu'on défend, c'est le maintien de tous les emplois, mais au service de la transition écologique et contrôlé par les travailleurs eux-mêmes, par les travailleurs des secteurs qui sont spécialisés, professionnalisés, qui savent de quoi ils parlent et qui ont tout intérêt, eux, à une transition écologique, parce que c'est leurs enfants qui habitent près des raffineries, qui habitent près des centres polluants et qui pâtissent des problèmes de pesticides, de pollution, de raffinage, et qui du coup ont tout intérêt aussi à cette transition. Mais il faut l'organiser et il ne faut pas opposer les classes populaires et la transition écologique, et surtout il ne faut pas tomber dans le piège du greenwashing, parce que c'est l'arme des grandes entreprises et pas la nôtre.
Très bien, merci Ariane. On arrive à la fin de l'émission, donc je vais vous laisser si vous voulez dire un dernier mot, et pourquoi est-ce que les habitants du 13e devraient voter pour vous. C'est parti, et après on conclura.
Bah, je pense que dans une période de génocide à Gaza, de guerre en Iran, d'austérité XXL, on a besoin d'un programme et de mesures qui sont radicales, et on a besoin d'élus de combat pour porter la voix des classes populaires. Nous, on considère que quand on travaille à Paris, qu'on étudie à Paris, on devrait vivre à Paris correctement, dignement. On doit récupérer cette ville aux grandes entreprises, aux ultra-riches, aux milliardaires. Et pour ça, il faut en finir avec les politiciens professionnels. Nous, on est une liste qui est composée de travailleurs, d'étudiants, de gens qui sont essentiels à la société et qui connaissent les problèmes du quotidien et qui porteront la voix de ceux qu'on n'écoute jamais, de ceux d'en bas, dans les conseils municipaux, pour participer à organiser la riposte et la résistance face à l'avenir qu'on nous promet. Et donc j'invite vraiment les habitants du 13e, des classes populaires, des quartiers populaires, de la jeunesse à voter pour Révolution Permanente parce qu'on sera le vote utile pour les classes populaires. Nous, on défend les classes populaires face aux politiciens professionnels qui se gavent sur le dos des pauvres et on organisera la riposte en utilisant toutes les infos qu'on a dans les conseils pour permettre la mobilisation de ceux qui y ont intérêt.
Très bien, merci à vous pour ces dernières paroles, Ariane. Anne Mouyanis, qui est candidate du coup dans le 13e arrondissement sous les couleurs de Révolution Permanente. Merci à toi, Asia, pour ta présence aujourd'hui. Merci à Jason, à la technique, pour la réalisation de cette émission. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Politiquement Vôtre. Bonne soirée.